Studio Tamani, voici nos informations en français.
Lundi 23 novembre 2020, il est 8h à Togel Gorgona, de la commune rurale de Gabero, région de Gao. Merci de votre fidélité au studio Tamani, le journal, une présentation de Imran Akilo Maïga, mise en onde nous Nikiré. Résultat des examens du baccalauréat session d'octobre 2020, le taux national de réussite est de 21,56%. Le ministère de l'Éducation nationale se réjouit d'avoir pu sauver l'année scolaire. Pour certains pédagogues, ce taux ne reflète pas du tout le niveau des élèves. Après 3 jours de grève décrétée par l'UNTEM, le travailleur reprend le service. Toutefois, le syndicat de l'Union nationale des travailleurs du Mali annonce le dépôt prochain d'un nouveau préavis suite à l'échec des négociations avec l'État. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique Junior sur les 15 aiglons testés positifs à la Covid-19 à Dakar. Après un contre-test, 3 sont sortis négatifs. Cette nouvelle a été annoncée par le ministre de Sport Moussa Ag Attaher. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. 21,56% sur le taux d'admission nationale du baccalauréat malien session d'octobre 2020. C'est du moins ce que déclare le ministère de l'Éducation nationale qui a proclamé sur les résultats ce samedi 21 novembre. Selon ses responsables, plusieurs facteurs ont contribué à la régression de ce taux de réussite. Il se félicite toutefois d'avoir organisé l'examen. Les pédagogues, quant à eux, soutiennent que ce résultat devait être normalement revu en baisse car, disent-ils, ce taux ne reflète pas l'image des apprenants. Moussa Amale Sissoko.
Pour le ministère de l'Éducation nationale, l'année scolaire 2019-2020 a été entachée par la grève des enseignants et la COVID-19. Selon le département, c'est ce qui résulte d'un taux de 21,56%, soit une baisse de 3,56% comparativement en 2019, 25,12%. Il se félicite néanmoins d'avoir sauvé l'année scolaire en organisant des examens. Mohamed Maïga, directeur national des examens et concours.
Le bac général avec 21,42 et le bac technique avec 30,50. Cette année, il y a eu la maladie à Covid, il y a eu aussi les mouvements de grève des enseignants. Tous ces éléments ont impacté sur les temps d'apprentissage.
Morike Dambélé, pédagogue, estime que ce taux est élevé au regard des turbulences et des discontinuités pédagogiques qui ont marqué l'année scolaire. Selon ce pédagogue, ses admis ou récalés au bac ont impérativement besoin d'une remise à niveau. Pour cela, il invite les parents d'élèves et les autorités à les accompagner. Morike Dambélé, pédagogue.
Ce taux est pourtant gonflé si on regarde bien les conditions dans lesquelles l'année s'est déroulée. Il faudrait normalement autour de 10%. Parce qu'il n'y a que les écoles privées qui ont travaillé. Les autres là n'ont pas travaillé dans des conditions qui assurent leur réussite au bac.
Ce résultat ne réjouit pas du tout les parents d'élèves, déplore la Fédération nationale des parents d'élèves. Selon Djoukamadi Sissoko, membre de l'organisation, tous les acteurs en charge de l'éducation sont interpellés pour la réussite des élèves.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. L'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTEM, envisage de déposer prochainement un nouveau préavis de grève de 5 jours après l'échec du dialogue avec le gouvernement. Selon le secrétaire général de l'Union, les responsables du comité syndical devraient se réunir ce lundi afin de décider de nouvelles stratégies. Toutefois, les fonctionnaires reprennent le travail après 3 jours d'arrêt de travail. Pour le syndicat de l'UNTEM, la grève qui a pris fin le vendredi dernier a été une réussite. Les économistes, quant à eux, estiment que cette grogne sociale pourrait davantage secouer le pays. Le point avec Maman Babakunta.
Après 3 jours de grève allant du 18 au 20 novembre, les responsables de l'INTEM se disent conscients de l'impact de cet arrêt de travail sur le pays. Cependant, pour Yacouba Katilé, la grève est le seul moyen de pression d'un syndicaliste.
On n'a pas le choix. Comme on dit, c'est un moyen. Nous sommes tenus d'aller en grève. Voilà vraiment la situation. Ce qui fait qu'effectivement, les gens ont ressenti parce que l'INTEM, c'est l'ensemble des branches d'activité au niveau du pays. Mais c'est que si nous allons déposer un préavis dès demain ou après-demain, Inch'Allah, après avoir fait la synthèse de la situation.
Pour des économistes, le pays a perdu des milliards pendant la grève des 72 heures. Ils estiment que notre arrêt de travail d'une semaine pourrait avoir un impact plus important que le précédent. Pour Modibo Maumakalou, il faut trouver un terrain d'entente.
Vous savez, nous traversons déjà une période assez difficile à cause de la COVID-19 et le pays est déjà en récession. Parce que vraiment la croissance est en berne. Mais il faut amorcer un dialogue franc, que les équipes de négociation vraiment aient confiance les unes envers les autres et que vraiment qu'on joue la carte de la franchise et de l'honnêteté pour voir ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait.
L'INTM demande entre autres l'harmonisation des grilles indiciaires des fonctionnaires qui servent de base au calcul des salaires. Ces nouveaux dépôts des préavis de grève est annoncé au moment où les administrateurs civils et les travailleurs des collectivités territoriales sont en grève illimitée depuis plusieurs semaines.
Le 49e pèlerinage national des catholiques a pris fin hier après-midi à Kita. Selon le ministre des Affaires religieuses et du culte, aucune activité religieuse n'est à minimiser car elle constitue un facteur d'insertion de la paix, de la convivialité et du développement de la nation. À marge du pèlerinage, Mahamadou Kone a mis un accent particulier sur la disparition de Sœur Gloria, enlevée depuis plusieurs années. Il est au micro de notre correspondant Fode Moussa Diakité depuis Kita.
Les Maliens sont naturellement religieux. Donc quand une religion, quelle que soit sa nature, célèbre son pèlerinage, nous sommes obligés d'aller accompagner cette religion. Car partout on parle de religion, on parle de Dieu. Et partout on parle de Dieu, on parle de la paix, on parle de la convivialité, on parle de la solidarité, on parle de la joie. Partout où se trouve la joie, la convivialité, c'est là où se trouve le développement réel sans démagogie aucune. Aujourd'hui nous avons été particulièrement marqués et frappés par notre interpellation des tableaux de Sœur Gloria qui a été victime d'enlèvement au nord du Mali, surtout vers la région de Sigasso. Il y a longtemps, j'ai interpellé toutes les structures religieuses de mener la recherche pour en retrouver cette victime qui est dans la main de ceux dont on ne sait pas d'abord. On implore le bon Dieu à ce qu'elle retrouve son pays natal dans la paix, dans la culture, dans la joie.
Pour la toute première fois, les Burkinabés résidents au Mali ont voté ce dimanche pour élire un nouveau président. Selon le président de la commission électorale indépendante d'ambassade CIA Bamako, plus de 2000 électeurs sont inscrits sur la liste des centres de vote. Il précise que ces élections se déroulent à Bamako et à Ségou. Ouattara Jean-Paul est au micro de Moumine Sentebo.
Il y a une formation qui a été faite par la CENI venant du Burkina et il y a eu des bureaux qui ont été mis en place. À Bamako, on a 1037 électeurs et il y a 3 bureaux de vote. Et à Ségou, on a 1000 et quelques aussi. Il y a aussi 3 bureaux de vote. Donc, on peut dire au Mali, il y a 2000 et quelques votants. Depuis 6 heures, on a commencé le vote et les premiers ont déjà passé. Sauf ceux qui sont en mission, avec l'ordre de mission, peuvent venir voter et c'est des votes de dérogation. Mais tout le monde doit voter là où il s'est enrôlé. En fait, c'est le principe même de la CENI, pour ne pas mélanger les fichiers.
15 aiglons ont été testés positifs à la COVID-19 au Sénégal ce samedi 21 novembre 2020. Cela après leur arrivée dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Junior qui doit se tenir en Mauritanie. Le ministre de la Jeunesse et du Sport, lors d'un point de presse, s'est dit être optimiste tout en annonçant l'envoi d'un effectif de 15 autres joueurs au Sénégal. Moussa Agataher a aussi précisé que les joueurs concernés avaient été testés négatifs au Mali avant leur départ pour le Sénégal. Écoutons donc sa réaction.
Notre équipe nationale junior Aigle est partie au Sénégal, mais malheureusement, nous avons eu de mauvaises nouvelles. 15 d'entre eux ont été déclarés positifs à la COVID-19 dans l'étonnement et l'interrogation totale. Nous avons immédiatement décidé de commun accord avec la fédération de dépêcher le président de la fédération sur place à Dakar pour prendre la réalité de la situation. Nous avons pris les dispositions. Notre médecin qui suit les Aigles a commandé un contre-test et dont les résultats sont actuellement en traitement au niveau de la clinique Pasteur à Dakar. Nous sommes optimistes et nous osons espérer que ces résultats soient le contraire de ce qui vient de nous être annoncé. La CAF a pris une décision. Le match qu'on devrait jouer avant que nos joueurs ne soient testés positifs, on considère que l'équipe qu'on devrait affronter gagne d'office.
Quelques heures plus tard, le ministère de la Jeunesse et du Sport a annoncé que sur les 15 joueurs déclarés positifs à la COVID-19, 3 ne sont emplis d'après un résultat de contre-test. Moussa Agataher précise que ces derniers sont prêts à regagner l'équipe nationale des Aiglons et des dispositions seront prises pour éviter de nouveaux dérapages. Faisons à présent le point de la COVID-19 à la date du dimanche 22 novembre 2020. Les autorités sanitaires du pays ont enregistré 49 nouveaux cas positif, 12 patients guéris et 2 décès. Ainsi, la situation cumulée est de 4255 cas confirmés, dont 3024 guérisons et 145 décès. Place à présent à notre rubrique Acti Covid présentée par Khalifa Goïta.
Les centres de traitement de la maladie à coronavirus sont de plus en plus confrontés à de nombreuses difficultés. C'est du moins ce que déclarent ses responsables. Ils déplorent le manque d'équipement sanitaire et l'insuffisance du personnel médical. Toutefois, ses responsables du centre de prise en charge des malades de COVID-19 réitèrent le soutien des autorités pour endiguer cette maladie. Les détails avec Moussa Malé Sissoko.
Pour le professeur Yakuba Toloba, cette réduction du personnel sanitaire s'explique par des contraintes budgétaires. Il invite donc les autorités à faire de la lutte contre la maladie à coronavirus une priorité. Professeur Yakuba Toloba, responsable du deuxième centre de prise en charge des malades de COVID-19 à l'hôpital du Point G.
On était une équipe de 18 personnels de santé, médecins, infirmiers et hygiénistes. Aujourd'hui, nous sommes 6. Déjà, ces personnels qui étaient là n'avaient pas perçu leur salaire. Nous attirons l'attention des autorités.
À la date du 16 novembre 2020, il n'y a aucun patient de COVID-19 au centre de prise en charge à l'hôpital Sominé de l'eau de Mokti, déclare Dr Abdoulaye Traoré. Selon le point focal COVID-19 à Mokti, son équipe est toujours sur ses gardes, car la pandémie n'est pas encore éradiquée. Dr Abdoulaye Traoré sollicite le soutien des autorités.
On avait un hangar qu'on a transformé en centre de prise en charge parce que il y a une seconde dotation qui n'est pas encore là. Malheureusement, on n'a pas possible de faire les tests sur place. Nous faisons les prélèvements et on envoie à l'homme. On va attendre minimum 72 heures.
Au même moment, le monde fait face à la deuxième vague de la COVID-19. Interrogé sur les mesures envisagées par le Mali, le ministère de la Santé n'a pas souhaité réagir.
La grève des agents chargés du test COVID-19 pour les voyageurs à l'Institut national de la santé publique prévue ce 23 novembre a été annulée. Selon les agents, un accord a été trouvé avec les responsables de l'Institut la semaine dernière. Ils exigeaient le paiement de leurs primes. Suivons maintenant la question d'auditeur du jour. Elle est répondue par Dr Amsatou Cissé, infectiologue au CHU de Kati.
Allô docteur, est-ce que un mégot de cigarette peut être un facteur de contamination au coronavirus?
La transmission par la salive est en cours de démonstration. Pour le moment, on n'a pas beaucoup de recul là-dessus. Mais le fait que la personne qui a utilisé cette cigarette-là, infectée, si il utilise ce mégot-là et que toi, à la fin, et tu puisses utiliser ce même mégot-là, tu peux le transmettre avec. C'est pour cela qu'on demande aux gens de laver les mains régulièrement.
Ainsi prend fin ActuCovid d'aujourd'hui. À demain. N'oubliez pas, vous pouvez réécouter ce programme à tout moment sur notre page Facebook ou rendez-vous sur la plateforme Viamo en composant les numéros 37 321, options 3 et 4.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Actualité en région nous conduit à Bankass à l'occasion d'une caravane de sensibilisation sur le retour de la paix et le vivre ensemble. Plus d'une quarantaine de jeunes ont sillonné la ville de Bankass ce samedi 21 novembre 2020. Elle a été organisée par l'ONG Aide de l'Église danoise en collaboration avec la jeunesse locale. La caravane va se poursuivre dans 5 communes du cercle pour véhiculer des messages de paix. 70 enseignants du centre d'animation pédagogique d'Ansongo prennent part à une formation de 6 jours sur la pédagogie curative. La session a débuté ce samedi 21 novembre à Ansongo. L'objectif, selon les organisateurs, est de permettre aux enseignants d'identifier et d'adapter des techniques d'enseignement correctes en classe pour promouvoir le bien-être des élèves. Cet atelier se tient du 21 au 26 novembre est organisé par le Centre d'animation pédagogique d'Ansongo et financé par l'ONG PACMA. Le tournoi Interligue de volleyball a démarré hier dimanche à Koulikoro. La compétition regroupe les équipes de Kai, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Désir de Bamako. Ce tournoi est une initiative de la Ligue de volleyball de Koulikoro. Il dure 2 jours. C'est sur cette note que se referme cette édition matinale qui vous a été présentée par Imran Akilo à Meiga, la mise en onde de Nounguiré. Vous avez la possibilité de réécouter toutes ces informations sur notre site web www.studiotomani.org ou en appelant sur la plateforme via mot au 37 321. 85% des maladies dans les pays en voie de développement comme le Mali sont provoquées par le manque d'assainissement adéquat selon l'OMS. À cela s'ajoutent les conséquences de l'environnement qui sont notamment les pollutions et les émissions de gaz à effet de serre. Au Mali, les collecteurs et caniveaux qui existent et même à des lieux publics sont transformés en dépotoirs par les populations et les GIE. Ce sont les conséquences du manque d'infrastructures adéquates, regrettent certains observateurs. Le magazine Parlons de l'environnement s'intéresse aujourd'hui à la gestion des déchets avec Mohamed Touré.
Les conséquences des déchets, notamment solides et liquides, sont énormes sur la santé humaine et environnementale. Parmi elles, les risques de pollution de l'air, de l'eau et du sol, ainsi que les nuisances odorantes et les émissions de gaz à effet de serre.
Le magazine Parlons de l'environnement.
La gestion des déchets regroupe la collecte, le triage, le transport, le traitement, la réutilisation ou l'élimination des déchets, notamment ceux issus des activités humaines. Mais au Mali, cette gestion connaît beaucoup de difficultés, comme le constatent certains Bamakois.
Et au niveau du Raïda, c'est devenu un lieu de stockage de déchets. Si ça n'augmente pas, ça ne diminue pas.
Je suis surprise de voir tous ces déchets-là au centre-ville. Mais ça, c'est dégoûtant, ça. C'est aux autorités de s'en occuper.
Je pense que les autorités font de leur mieux.
Tout le monde sait que jeter des ordures partout n'est pas bon.
Certainement, ils ne sont pas sûrs qu'ils peuvent attraper des maladies en jetant des ordures n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Parce que les gens ne sont pas assez sensibilisés sur ça.
Quand quelqu'un jette des ordures comme ça, quand tu lui parles, il va dire que monsieur, le lieu là, c'est pour toi. Or, un lieu public, c'est pour nous tous.
Je ne suis pas au courant que les déchets sont bien transformés par nous tous.
Ça peut bien se transformer, puis il y a une grande importance dedans.
Même les dalles, on peut fabriquer des dalles avec des sachets qu'on jette. Bon, le seul message que je veux dire aux Maliens, l'intérêt personnel, ça c'est vrai, mais l'intérêt du groupe aussi, ça compte pas.
Et chacun trouve son intérêt dans l'intérêt du groupe. Les services de l'État, les mairies, les groupements d'intérêt économique GIE, aux zones Mali, les industries, les populations. Ils sont nombreux les acteurs qui interviennent dans la gestion des déchets. Mais pourquoi tant de difficultés alors? Suivons cet échange entre des représentants de la Direction nationale de l'assainissement et du contrôle de la pollution et des nuisances, de Ozone Mali, des GIE et de la population.
Aujourd'hui, l'État malien a confié à la société Ozone Mali la gestion des services de propriété de la ville de Bamako. Et c'est à travers cette convention que nous sommes actuellement en train de gérer la ville de Bamako avec Ozone. Malheureusement, avec des problèmes.
Si Ozone doit travailler efficacement, de prendre le calcul, il faut près de 25 millions par jour pour pouvoir rendre la ville de Bamako propre. Nous, avec les impayés que nous avons, ça nous crée énormément de difficultés.
C'est désolant. Désolant à partir du moment que Bamako est rempli d'ordures. Ozone n'arrive pas à prendre, à évacuer totalement.
Ozone ramasse pour aller mettre dans la nature. Les GIE ramassent pour aller mettre dans la nature. Les ordures seulement les amènent vers nous. Donc nous sommes sur un tas d'ordures. Nous élevons nos enfants sur des tas d'ordures. On se demande même à qui la faute, incivilisme ou manque d'autorité. L'État, en premier lieu, doit faire une étude.
Ce n'est pas seulement l'État seul. Si tous les Maliens sont propres, tous les Bamakois sont propres, les constitutions sont propres, les Bamakois deviennent tout de suite propres parce qu'il y a des droits, mais il y a des devoirs.
Si je dis l'État, je parle des décideurs. Nous ne pouvons pas tous décider ensemble.
Il n'y a pas de destination finale. Le ridicule ne dit pas la capacité de Noumbourou est dépassée. On est sous la décharge de Noumbourou, ça vaut 5 à 6 ans. On n'arrive pas à réaliser la décharge de Noumbourou.
Mais si on continue sur cette lancée, en 2022, nous allons nous retrouver avec plus d'ordures encore.
Que faire maintenant? Quelle solution face à cette situation?
On doit amener les gens à payer la taxe parce qu'on a fait trop de sensibilisation maintenant. Il faut sanctionner.
Souvent, les dépôts de transit sont contribués aux constructions de logements. Il y a une certaine distance à partir de laquelle les logements doivent être.
Il faut au minimum 3 décharges. Une décharge sur la route de Ségou qui va recevoir les déchets de la commune 5 et 6, une décharge sur la route du Mandé des communes 3 et 4 et une décharge sur le Moubourou des communes 1 et 2.
Et il faut que ces décharges soient fonctionnelles. Il ne faut pas que ce soit des noms ou des sites, mais ça doit être des décharges fonctionnelles et avec des systèmes de valorisation. Le premier maillon d'une chaîne de gestion des déchets, ça c'est le centre de traitement des déchets. Il faut neutraliser les déchets. Tu vas dans un lieu, tu jettes quelque chose, il y a les petits-enfants qui sont là en cantonnier, ils vont venir te dire, ah, tu as oublié quelque chose, voilà.
Depuis quelques décennies, décennie, les actions sur la réduction de l'effet des déchets sur la nature et l'environnement rentrent dans une perspective d'économie circulaire. Il s'agit de la valorisation des déchets ou revalorisation. C'est un ensemble de procédés par lesquels on transforme un déchet matériel ou organique dans l'objectif d'un usage spécifique comme le recyclage, le compostage ou encore la transformation en énergie. Et cette valorisation des déchets est généralement considérée comme une solution préférable à l'élimination, souligne des spécialistes. Fin de ce magazine Parlons de l'environnement, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À la réalisation et présentation, Mouhamadou Touré.